Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seydoudia, bonjour. Au Tchad, au moins 5 personnes ont été tuées mardi dans des manifestations sporadiques à N'Djamena et dans le sud du pays contre la junte qui a pris le pouvoir après la mort du président Idriss Déby Itno il y a une semaine. Aussi, discours télévisé du nouvel homme fort tchadien, Mahamad Idriss Déby. Marius Muhunga fera le point dans quelques instants et nous retrouverons en seconde partie de cette édition notre correspondant sur place, André Kotmajingar. Deux journalistes espagnols et un Irlandais portés disparus depuis une attaque lundi dans l'est du Burkina Faso ont été exécutés. Rosine Munezero nous donnera les détails. Burkina toujours, des attaques meurtrières ont été menées dans la nuit de lundi à mardi contre des villages de la commune de Seitenga dans le nord du pays, faisant une dizaine de morts selon le gouvernement, une quinzaine et 5 disparus selon un élu local. Quelques 29 millions d'habitants de 6 pays du Sahel ont besoin d'une aide humanitaire et de protection, soit 5 millions de plus qu'il y a un an, ont averti mardi des agences de l'ONU et des organisations non gouvernementales. Il s'agit d'un nouveau record qui concerne le Burkina Faso, le nord du Cameroun, le Tchad, le Mali, le Niger et le nord-est du Nigeria, ont précisé dans un communiqué conjoint ces acteurs de l'aide humanitaire. En Somalie, le président Mohamed Abdoulaye Mohamed, dit Farmajou, a appelé mercredi matin à un retour au dialogue et à la tenue d'élections, alors que son pays traverse sa pire période de violence politique depuis des années, déclenchée par l'extension de son mandat. La tension était vive mardi à Mogadiscio, 2 jours après des échanges de tirs entre forces gouvernementales et pro-opposition qui ont fait 3 morts. Des soldats érythréens bloquent et pillent de l'aide alimentaire au Tigré, faisant craindre une famine dans cette région du nord de l'Éthiopie en proie à la guerre, selon des documents du gouvernement éthiopien obtenus par l'AFP. Asmara dément. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden s'exprime ce mercredi pour la première fois devant le Congrès, déterminé à afficher sa volonté réformatrice, en particulier en matière fiscale, après un début de mandat mené tambour battant. Hier, M. Biden a salué les progrès extraordinaires réalisés aux États-Unis face à la pandémie de COVID-19. Et puis, plus de masques pour les Américains vaccinés en extérieur, Nathalie Barge fera le point. Au moins 17 pays ont connu des infections aux variants indiens du coronavirus, selon l'OMS. En Inde, toujours débordée par une flambée épidémique et où l'aide internationale a commencé à arriver mardi, les crématoriums manquent de bois et par endroits, comme à New Delhi, brûlent les corps sur des parkings. On a signalé plus de 200 000 morts du COVID-19 dans le pays, avec plus de 3 000 décès en 24 heures pour la première fois. Une école privée de Miami, en Floride, a interdit à ses enseignants de se faire vacciner contre le COVID-19 en brandissant des arguments non fondés selon lesquels le contact avec des personnes vaccinées serait nocif pour les enfants. Une femme de 54 ans, est décédée au Québec après avoir reçu le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca, premier cas signalé au Canada, a annoncé mardi le premier ministre québécois François Legault. Une seule dose de vaccin Pfizer ou AstraZeneca permet de réduire la transmission du coronavirus jusqu'à près de moitié au sein d'un même foyer où le risque de contagion est élevé selon une étude de l'Agence publique de santé anglaise. Un Africain-Américain tué par la police le 21 avril à Elizabeth City en Caroline du Nord, ici aux États-Unis, a reçu une balle dans la nuque, a assuré mardi sa famille sur la base d'un rapport d'autopsie indépendant qui, selon elle, confirme qu'Andrew Brown Jr. a été exécuté. La police locale, qui a demandé à un juge l'autorisation de publier la vidéo sur la scène, a appelé à ne pas se précipiter sur les conclusions. La suite de nos informations. Au Tchad, au moins 5 personnes ont été tuées hier dans des manifestations contre la junte à N'Djamena et dans le sud du pays. Des précisions de Marius Muhunga.
Au moins 5 personnes ont été tuées hier au Tchad, dont 4 à N'Djamena et 1 à Mundu, a indiqué Youssouf Tom, procureur de la République. La Convention tchadienne des droits de l'homme, une ONG, parle de 9 morts, dont 7 à N'Djamena et 2 à Mundu. L'opposition et la société civile dénonçant un coup d'État institutionnel et une succession dynastique avaient appelé à des rassemblements interdits par le Conseil militaire de transition. À Paris, le président Emmanuel Macron a condamné la répression et a appelé à une transition pacifique, démocratique et inclusive, tout en rappelant qu'il n'était pas pour un plan de succession à la tête du Tchad. À ses côtés, le Congolais Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, est allé dans le même sens, réitérant ce propos à N'Djamena vendredi, pendant les obsèques du président Idriss Déby Itno. Dans un discours hier, le général Mamad Idriss Déby, nouvel homme fort du pays, a promis un dialogue national inclusif durant une période de transition de 18 mois.
Deux journalistes espagnols et un Irlandais portés disparus depuis lundi ont été exécutés dans l'est du Burkina Faso. Madrid a confirmé la mort de ces deux ressortissants. Le point avec Rosine Munezero.
C'est très regrettable, mais les trois Occidentaux ont été exécutés par les terroristes, a déclaré le responsable des services de sécurité. À Madrid, le Premier ministre Pedro Sanchez a confirmé la mort des deux Espagnols. Selon la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, ces deux journalistes ont réalisé un documentaire sur les dispositifs mis en place pour protéger les parcs nationaux au Burkina Faso. À Dublin, le ministre des Affaires étrangères a indiqué être au courant de la disparition d'un ressortissant irlandais, se refusant cependant à commenter les détails d'un cas particulier. Un Burkinabé est toujours porté disparu. Plusieurs prises en otage d'étrangers ont eu lieu ces dernières années au Burkina Faso, confrontés depuis plusieurs années à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes.
Le président Joe Biden a salué les progrès réalisés aux États-Unis face à la pandémie de COVID-19. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais nous avons fait des progrès extraordinaires, a-t-il déclaré, évoquant la baisse du nombre de cas et de décès. Compte rendu de Nathalie Barge.
Si vous êtes vacciné, vous pouvez faire plus de choses à l'intérieur et à l'extérieur, a déclaré Joe Biden. Les autorités sanitaires ont annoncé hier que les Américains vaccinés n'ont plus besoin de porter de masque en extérieur, sauf dans des foules. Si vous voulez participer à un petit rassemblement avec des gens vaccinés et non vaccinés, vous pouvez le faire en toute sécurité sans masque, a déclaré Rochelle Walensky, la directrice des centres de prévention et de lutte contre les maladies. Toutefois, les CDC recommandent toujours le port du masque en intérieur. Les restrictions varient selon les États. Certains avaient mis en place des règles strictes imposant le port du masque partout en dehors de chez soi, même sans personne autour. Ils devraient désormais faire évoluer ces obligations, même s'ils n'y sont pas absolument tenus. Plus de 95 millions de personnes ont été vaccinées aux États-Unis, soit près de 30% de la population.
Le PIB réel du Mali s'est contracté de 2% en 2020, indique la Banque mondiale. C'est la conséquence de la baisse de la demande mondiale, les difficultés d'approvisionnement, les restrictions domestiques, la chute de la production cotonnière et la faible performance de la filière agricole. Importateur de pétrole, le Mali a toutefois profité de la baisse des cours du brut, tandis que l'appréciation de l'or en 2020 a renchéri ses recettes. Cette situation a permis à Bamako de réduire son déficit en 2020, malgré le recul des transferts des migrants. Le Togo a inauguré son 4e marché de bétail à Agné, à 188 km au nord de Lomé. Ce parc, dont la capacité d'accueil est estimée à plus de 2000 bœufs, est doté d'un système autonome d'alimentation en eau. Le marché a été financé à plus de 62 millions de francs CFA par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Pour terminer, au Sénégal, le conseil départemental de Louga a annoncé qu'il ouvrira bientôt l'usine de transformation de Niébé qui générera 100 emplois directs et indirects pour les jeunes. L'usine sera dotée d'un restaurant spécialisé dans la vente des produits à base de Niébé. Le président du conseil régional de Louga, Amadou Mbéré Sylla, a promis que les 53% de la production nationale de Niébé sont assurés par la région de Louga. Les fermes agricoles, qui ont été installées dans beaucoup de communes du département, vont démarrer à la prochaine saison des pluies.
Merci Nanit, et maintenant les sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Deuxième demi-finale aller de la Ligue des Champions ce soir en Europe. Le Paris Saint-Germain des Sénégalais Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo reçoivent Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez au Parc des Princes à Paris. En jeu, prendre une option sérieuse pour la qualification pour la finale à Istanbul le 29 mai. En conférence de presse hier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino a expliqué qu'il est relax et confiant, tandis que son homologue de City, Pep Guardiola, dit vouloir que ses joueurs soient eux-mêmes pour pouvoir s'imposer. Hier, le Real Madrid de Zinedine Zidane s'est fait bousculer 1-1 à domicile par les Anglais de Chelsea, dirigé par Thomas Tuchel. En demi-finale aller, 8 jours avant le retour à Londres, l'attaquant madrilène Karim Benzema a répondu d'une frappe acrobatique à la 29e minute à l'ouverture du score précoce de Christian Pulisic à la 14e, le Français devenant à l'occasion le 4e meilleur buteur dans la compétition reine avec 71 réalisations à égalité avec Raúl, l'ancien attaquant du Real Madrid. Le milliardaire américain Stan Kroenke, propriétaire d'Arsenal, est visé par des manifestations hostiles des supporters. Après son engagement en faveur de la Super League européenne dissidente avortée, a affirmé qu'il n'étudierait aucune offre de rachat des Gunners. « Nous n'avons reçu aucune offre et nous n'étudierons aucune offre », a indiqué sa société Kroenke Sport & Entertainment, alors que le fondateur suédois du site de diffusion musicale en ligne Spotify Daniel Ike s'est dit intéressé pour reprendre le club. Actuellement 10e de Premier League, Arsenal pourrait connaître son plus mauvais classement final depuis 1995, même si les Gunners sont dans le même temps encore engagés dans la Ligue Europa, où ils se déplaceront chez les Espagnols de Villarreal en demi-finale aller demain jeudi. Tennis, l'Espagnol Rafael Nadal, vainqueur dimanche du tournoi de Barcelone, a récupéré la place de numéro 2 mondial derrière le Serbe Novak Djokovic au détriment du Russe Daniil Medvedev. Selon le classement ATP, le Mallorquin, qui s'est imposé pour la 12e fois de sa carrière sur la terre battue catalane, conforte également son statut de recordman des victoires sur terre battue avec 61 titres contre 49 à l'Argentin Guillermo Vilas et fera encore figure de favori à Roland-Garros cet été, compétition qu'il a déjà remportée à 13 reprises et où il fêtera ses 35 ans. Le Grec Stefanos Tsitsipas, battu en finale à Barcelone par Nadal, reste au 5e rang derrière l'Autrichien Dominique Thiem.
Merci Yacouba.
Vous êtes croyant, animiste ou athée, VOAfrique vous accorde une tribune dans le dialogue des religions pour parler de la religion, de la vie et de la société. Vous ne penserez jamais tous de la même façon, vous ne verrez qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Vivre, c'est aussi un privilège, un cadeau à protéger. Retrouvez donc Eric Manilakiza tous les mercredis et dimanches à partir de 19h temps universel sur VOAfrique et voafrique.com. Sans oublier la page Facebook, laissez-nous vos numéros et partagez vos commentaires ou témoignages. Mais n'oubliez pas, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé. Bienvenue au Dialogue des Religions.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La police tchadienne a dispersé mardi à coups de gaz lacrymogène des manifestations contre la junte qui a pris le pouvoir après la mort du président Idriss Déby Itno. Des appels à manifester avaient été lancés par plusieurs partis de l'opposition et des organisations de la société civile. Mais ces rassemblements ont été interdits lundi par le Conseil militaire de transition. Reportage d'André Kotmedingar, notre correspondant à Niamena.
L'objectif de cette manifestation pacifique lancée par la coalition Wakitama, un regroupement des forces vives de la nation, vise à exiger le retour à l'ordre constitutionnel et la démission du conseil militaire de transition. Un appel qui a été entendu par la population de N'Djamena et dans presque tout le pays. Très vite, elle a été violemment réprimée par des éléments des forces de l'ordre qui ont tiré à balles réelles sur les manifestants. Une bavure qui s'est soldée par 3 morts confirmées alors que la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme parle de 9 morts, dont 7 à N'Djamena et 2 à Mundu. Un manifestant blessé à l'avant-bras témoigne.
Ils nous ont poursuivis, j'ai viré pour entrer à l'église, puis ils nous ont tiré des barrières.
De l'autre côté, il s'est sorti de l'autre côté. Tu vois, il y a l'entrée ici, oui, il s'est sorti ici.
Aucune institution et domicile privé ne sont épargnés par des tirs de grenades lacrymogènes, comme en témoigne à VOA Afrique quelques citoyens.
Les manifestants. Ils ont oublié d'aller se réfugier au niveau de l'église. Eux, de dehors, ils ont jeté des trucs. Moi, j'ai vu un manifestant blessé au niveau de base.
Il y a 3 jeunes qui ont tué et puis ils sont entrés dans une concession voisine là et ils ont mis la canne. Mais les policiers ont escaladé le mur pour aller dedans et ramasser les jeunes là pour les tabasser.
Même les portes de certaines concessions bien fermées ont été défoncées par la police. Ce qui ressemble à des règlements de compte. Une ménagère qui requiert l'anonymat s'est dit très choquée par ce comportement.
On a fermé le portail. Ils ont lancé des gaz de lacrymogène dedans et puis ils ont demandé d'ouvrir la porte. Personne n'a voulu ouvrir. Ils ont cassé la porte là avec leur véhicule pour faire leur entrée ici. Chaque chambre là, ils ont pris pour casser et puis dedans là, les enfants là ont eu peur. Ils se sont cachés dans les chambres. Vous voyez les portes là sont cassées et puis ils ont pris les enfants. 5 enfants de même père et puis un voisin. L'enfant de notre voisin aussi. Ils ne sont pas des manifestants.
À côté d'elle se trouve un membre de la famille. Lui aussi, dans l'anonymat, déplore le comportement peu social des éléments de force de défense et de sécurité.
C'est bien dit force de l'ordre, c'est pas force de désordre. Nous sommes pas des sauvages là. Minimum de respect pour la population. On dit des manifestations, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la population est sortie? Que nos gouvernements se posent cette question. Ils veulent à tout prix pousser cette population à faire quelque chose et puis ça, c'est un prétexte ou bien qu'est-ce qu'ils veulent? Quelqu'un a demandé le pouvoir ici? La maman, est-ce qu'elle a demandé? Est-ce que moi j'ai demandé le pouvoir ici? Je demande tout qu'à manger et puis amener mes enfants à l'école et puis surtout être en paix et sécurité, c'est tout. J'ai demandé le pouvoir de quelqu'un ici. Pourquoi vous venez brutaliser chez moi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a?
C'est dans cette situation tendue que le président du conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby, s'est adressé à la nation. À la surprise de tous, la démission du conseil militaire de transition exigée par la coalition Wakitama à travers la rue, qui s'est soldée par mort d'homme, n'a pas été évoquée par le président du CMT. Toutefois, il a déclaré que tout acte, attitude et comportement contraire à l'unité nationale, au vivre ensemble et à la paix, est un grave préjudice causé à la nation. André Godmadingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24, sur VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
Dans le but de renforcer le système sanitaire du Burkina Faso, les États-Unis ont offert un don à un hôpital mobile pour faire face aux urgences sanitaires liés au coronavirus ou à des situations de catastrophe humanitaire. Cette aide va soulager le pays confronté à l'insécurité et qui a vu les capacités de prise en charge des services de santé se diminuer. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
C'est au monument des martyrs de Ouagadougou que cet hôpital mobile a été dressé. Du matériel médical, un plateau technique performant, un système d'eau et d'électricité. C'est un complexe qui a le nécessaire pour prendre en charge au moins 50 patients. Un geste qui vient soulager le Burkina, qui a des difficultés en termes d'offres sanitaires. Charlemagne Ouédraogo est le ministre de la Santé.
Lorsque nous sommes devant une urgence sanitaire telle que Covid ou Ebola, il est possible de créer un environnement très conditionné qui permette de ne pas propager la maladie et de contenir la maladie à l'intérieur. Donc c'est un hôpital qui vient renforcer les capacités de Burkina devant toutes les situations de catastrophes humanitaires ou sanitaires.
Cet hôpital mobile offert par les États-Unis a coûté environ 1 400 000 dollars américains. Sandra Clark est l'ambassadeur des États-Unis au Burkina.
Et je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, nous célébrons le don d'un hôpital mobile au gouvernement et au peuple de Burkina Faso. Cet hôpital va aider le gouvernement de répondre aux aux urgences, aux épidémies, aux catastrophes. Et c'est un exemple de partenariat entre les États-Unis et le Burkina Faso.
Sur le plan sécuritaire, l'hôpital mobile va servir un établissement de soins provisoires déployé en cas de crise sanitaire importante, de catastrophe à proximité d'une zone de combat ou encore lors d'importantes manifestations populaires avec des risques de santé publique élevés. D'ailleurs, selon Ousseni Compaoré, le ministre de la Sécurité qui était à la remise de l'hôpital mobile, cet appui s'inscrit dans un cadre de collaboration civilo-militaire et contribuera à renforcer la collaboration et la coordination des interventions multisectorielles en s'appuyant sur les mécanismes d'intervention existants, la mobilisation des ressources pour la gestion et le fonctionnement des différents dispositifs, équipements et logistiques. La fermeture des formations sanitaires dans certaines parties du pays en raison de l'insécurité et les attaques armées récurrentes ont augmenté la demande de soins et occasionné des afflux massifs de victimes, rendant difficile l'accessibilité aux soins et services. De 2015 à 2020, plus d'une centaine de centres de santé ont fermé à cause de l'insécurité. Au moins 140 autres connaissent une certaine dégradation. Le manque d'équipement adéquat. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
La sprinteuse nigérienne Amina Seyni se prépare pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Elle devra courir les 200 mètres au lieu des 400, sa spécialité. Hyper-androgène, Amina et son encadrement technique ont décidé de ne pas se plier au règlement de la World Athletics qui impose la prise de médicaments aux filles atteintes d'hyper-androgénie pour disputer les distances de 400 mètres et plus. Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Donc, dépêche-toi, colle-toi. Allez, on y va.
C'est au cours d'une de ces séances d'entraînement que nous avons rencontré la jeune Amina Seyni, 24 ans, quatrième mondiale aux 400 mètres avant le règlement adopté en 2018 par la World Athletics qui oblige les filles hyperandrogènes à prendre des médicaments réducteurs d'hormones pour pouvoir courir sur les 400 mètres et plus. Ne se reprochant rien, Amina Seyni et son encadrement rejettent cette option et décident de s'aligner sur les 200 mètres aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Salifu Umaru Gladima est son entraîneur.
Aussi, elle court les 400 mètres là. Nous avons la chance d'avoir médaille. C'est garanti même, c'est garanti. Mais au dessin, on peut avoir médaille. On sait que on ne doute pas, même au dessin. Mais quand même, si c'était aux 400 mètres là, on sait très bien que nous allons avoir une médaille. Ça c'est garanti. Nous allons dire que c'est réglement, c'est contre nous-mêmes qu'on a fait ça.
Cette stigmatisation du fait de son physique, Amina Seyni la subissait depuis ses premières expériences dans l'athlétisme, se souvient son entraîneur.
Quand elle a commencé à courir, elle était toute petite. Quand elle a couru, elle a dit pas tout le monde. Il y a des enseignants qui étaient à la course, ils ont dit non, ils ne sont pas d'accord, elle n'est pas une fille. Ils l'ont pris, on l'a mis dans une maison à la place Toumou. On l'a mis dans une maison, on l'a vérifié. Et après, ils sont revenus. Ils ont accepté.
Ignorant totalement ce débat polémique, Amina regarde droit devant elle, persuadée qu'elle est, qu'elle réalisera son rêve.
Les Jeux Olympiques de Rio, je voulais partir mais vivre mon niveau. C'est pas comme les autres niveaux. Mais maintenant, je suis prête à préparer les JO, à participer aussi. J'ai l'espoir d'amener une médaille si je suis dans de bonnes conditions, parce qu'il faut être dans de bonnes conditions. Si ils ont enlevé leur règlement, donc je pourrai participer aux 400 mètres. Mais s'ils n'ont pas enlevé, impossible d'aller aux 400. Je vais rester toujours sur les 100 et 200 mètres. Et pour combattre, pour moi-même, pour mon pays, pour faire un devoir, pour moi-même. Je suis très content de tout ce que j'ai réalisé si je continue à réaliser mes rêves aussi.
Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le président Joe Biden boucle ses 100 premiers jours à la tête des États-Unis. Son taux de popularité se situe à 52% selon un sondage réalisé par la chaîne ABC News et le quotidien Washington Post. Les points forts, la lutte contre le Covid-19 et la relance de l'économie. Le sondage révèle par ailleurs que le dossier de l'immigration reste un défi pour le locataire de la Maison-Blanche, sans oublier les relations tendues entre la police et les minorités. Avec nos invités, nous analyserons les 100 premiers jours de Joe Biden à la présidence, ce jeudi à 19h temps universel, sur VOA Afrique et voaafrique.com.
La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, va se rendre prochainement au Mexique et au Guatemala pour traiter de la question de l'afflux de migrants à la frontière. Cilia Mendoza de la VOA s'est rendue à El Paso, au Texas, à la frontière mexicaine, où de nombreuses personnes fuyant la violence et la pauvreté sont à la merci de passeurs sans scrupules. Reportage repris ici par Nathalie Barge.
Pour venir ici, j'ai dû laisser ma propriété mise en gage. Il m'est facturé 20 000 $.
Ronaldo Galicia, un Guatémaltèque de 39 ans, a raconté son histoire lors de son séjour à Casa Alitas, un refuge pour migrants à Tucson, en Arizona, près de la frontière nord du Mexique.
Je ne faisais pas confiance aux gens qui sont venus nous chercher. Ils m'ont mis dans une malle où je ne pouvais pas respirer. Eh bien, Dieu merci, parce qu'ils disent que tous ceux qui vont dans une malle meurent.
La patrouille frontalière américaine affirme que ce type d'activité illégale fait partie d'une entreprise de trafic d'êtres humains de plusieurs milliards de dollars. Mario Escalante, porte-parole de la patrouille des frontières.
Les traversées illégales comportent de nombreux dangers, évidemment, au fil des ans. Ce que nous avons vu, c'est qu'ils profitent des gens, les laissent à l'abandon, les volent. Malheureusement, ils violent les filles et il y a des moments où des choses encore plus horribles se produisent.
Durant son voyage clandestin, Ronaldo Galicia a été témoin de violentes pratiques criminelles.
Ils demandent une quantité d'argent et s'ils ne l'obtiennent pas à l'heure et à la date voulue, ils vous tueront. Ils vous tuent lentement et vous couperont la main, la langue, une oreille. C'est leur loi.
Le district du député démocrate Henry Cuellar s'étend de San Antonio à la ville frontalière de McAllen, dans le sud du Texas.
Franchement, nous savons que ces groupes criminels gagnent de l'argent en passant de la drogue. Ils gagnent de l'argent en passant des gens.
Les douanes et la protection des frontières rapportent que depuis le début de l'année, la patrouille a arrêté plus de 5000 migrants illégaux qui ont un casier judiciaire ou sont recherchés par les forces de l'ordre. Les autorités se concentrent sur les personnes qui profitent des candidats à l'immigration clandestine, souligne Roberta Jacobson, coordonnatrice pour la frontière sud.
Il nous faut travailler avec les autorités de renseignement et les informations d'autres pays et vraiment nous concentrer sur les malfaiteurs qui exploitent les migrants pour des raisons criminelles et économiques.
L'administration de Joe Biden a envoyé au Congrès une stratégie d'immigration globale et continue de décourager les entrées illégales aux États-Unis. Le président démocrate est accusé par les républicains d'avoir créé un appel d'air à la frontière et de ne pas avoir pris la mesure de la situation sur le terrain, avec en particulier l'arrivée de nombreux enfants isolés exposés aux trafiquants d'êtres humains.
VOA Afrique en direct de Washington.
I called it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles at my face. Romantic talking, you ain't even had to try. You're cute enough for me tonight. Looking at the table and I see the reason why. Baby, you live in the life, but baby, you ain't living right. Champagne and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only here to sin. Forgiven in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like,
C'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.